La grande table profite de l'été pour rencontrer des artistes de passage à Paris. C'est le cas de l'écrivain irlandais Donal Ryan, qui à 13h30 viendra nous parler de son roman « Tout ce que nous allons savoir ». Publié chez Albin Michel. Mais avant cela, départ pour Metz, plus précisément le Centre Pompidou, qui consacre une exposition à l'artiste Rebecca Horn intitulée « Théâtre des métamorphoses ». Licorne, parure, prothèse, l'œuvre féerique et mythologique de la plasticienne fait apparaître un univers d'hybridation où la condition de l'homme se mêle à celle de l'animal, réel ou imaginaire, et de la machine. Un monde de créatures incarné par des performances filmiques et des installations sonores et mobiles. Nous sommes allés au Centre Pompidou-Metz faire la visite guidée par sa directrice et co-commissaire de l'exposition Emma Lavigne, Rebecca Horn, Théâtre des Métamorphoses. C'est tout de suite sur France Culture.
La grande table d'été. Maëlys Besserie.
Emma Lavigne, c'est le début de l'exposition Rebecca Horn qui se tient en ce moment au Centre Pompidou-Metz. On commence par une vidéo un peu étrange, une coupe de cheveux.
C'est une sorte d'autoportrait de Rebecca Horn, où avec un air plein de malice et d'humour, et en même temps un regard de défiance, elle se coupe les cheveux, sa magnifique chevelure de cheveux qu'elle portait très longs au roux, avec deux paires de ciseaux qui viennent quand même menacer ses yeux, son regard. Donc il y a déjà des émotions contradictoires, donc l'anxiété et puis quelque chose de l'ordre du jeu, la séduction et le défi. Donc il y a souvent chez Rebecca Horn cette espèce de mise en tension des émotions. Elle le dit elle-même, c'est la façon dont nous abritons en nous les émotions, des forces opposées, par exemple la tendresse et l'agressivité, qui sont reliées par un fil tendu, par un arc. C'est cette sensation d'un flux perpétuel d'énergie qui maintient les choses en mouvement. Et dans cette première œuvre, c'est une façon d'accueillir les visiteurs et de les mettre un petit peu au parfum de l'enjeu de cette œuvre qui travaille toujours sur des émotions antagonistes.
Emma Lavigne, avant de rentrer complètement dans la première salle, peut-être on peut rappeler quelques éléments de la vie, de la biographie, mais de la biographie artistique aussi de Rebecca Horn, artiste allemande.
C'est une artiste allemande qui est née en 1944, qui a 75 ans, qui a très rapidement été connectée avec des artistes de la scène internationale. Elle va quand même faire sa formation donc à l'école des beaux-arts de Hambourg, mais à Hambourg, elle va rencontrer des artistes comme Kenneth Anger, donc un grand réalisateur de films très underground, qui va la connecter à ceux que j'appelle les bad boys du cercle de Rebecca Horn. Donc ces bad boys sont aussi bien des écrivains comme Jean Genet, comme Antonin Artaud, que des réalisateurs de la scène underground. Donc grâce à Kenneth Anger, elle va découvrir le cinéma de Andy Warhol, de Jack Smith, tout ce cinéma underground qui va lui donner très très tôt envie de développer une œuvre finalement au sein de laquelle le cinéma sera d'une façon ou d'une autre présent, soit par les références à certains auteurs comme aussi des grandes figures du début du XXe siècle
comme Buster Keaton,
comme Buñuel. Et le cinéma est vraiment un pan entier du travail de Rebecca Horn que l'on ne connaît pas et que l'on a voulu mettre à l'honneur dans cette exposition.
Alors Rebecca Horn, c'est cette artiste qui travaille sur plusieurs supports. Il y a à la fois les installations dont vous allez nous parler, il y a eu les sculptures, même si un certain nombre d'entre elles ont été détruites, il y a les dessins, il y a les photos, il y a eu les performances. Donc c'est un travail très pluridimensionnel, Emma Lavigne.
C'est un travail d'une richesse absolue et en effet, c'est plutôt des concepts qui animent son travail que, je dirais, une utilisation de médium qu'elle va développer au fur et à mesure. Le cinéma est toujours là, dès le début. Le dessin, finalement, qui réapparaît en force dès les années 2000 dans son travail, est aussi, dès la fin des années 60, présent, notamment quand elle est donc pendant un long séjour en sanatorium.
Il faut expliquer cette histoire, Emma Lavigne. Elle s'est intoxiquée en faisant ses moulages.
En effet, dès ses débuts, Rebecca Horn va vivre une expérience fondamentale et fondatrice de son travail. Elle va s'empoisonner avec les vapeurs toxiques provoquées par l'utilisation de résines synthétiques. Et donc, elle va avoir les poumons intoxiqués et donc elle va devoir passer de longs mois en sanatorium. Elle est toute jeune. Cette période de réclusion est une souffrance totale pour Rebecca Horn. Et en même temps, elle va partir de cette sensation de réclusion, d'enfermement, pour développer une très grande conscience d'elle-même et développer une œuvre qu'elle va très rapidement mettre en extension avec le reste du monde.
Donc il y aura le corps, son corps, les extensions et ce rapport finalement à l'art qui part du corps comme une matière première.
Le corps devient véritablement cette matière première et en parallèle du corps, elle a tout de suite un rapport très fort avec l'espace qui l'entoure, que ce soit l'espace du sanatorium, puis l'espace de son atelier à Berlin ou à New York. L'atelier va devenir comme un cocon, comme une seconde peau, comme un deuxième corps. Et donc, il y a vraiment sans arrêt cette idée d'un corps qui est complètement en prise avec l'espace qui l'entoure, qui le protège. Comme notamment dans ce film, donc où l'on voit dès l'entrée de l'exposition, ça s'appelle les neuf exercices berlinois.
Alors là, c'est un perroquet que l'on voit et Rebecca Horn elle-même qui n'apparaît pas nécessairement dans ces films.
Elle apparaît en effet dans ses performances avec énormément d'humour, où elle essaye de communiquer avec un perroquet qu'elle essaye donc avec lequel elle essaye de communiquer. Ce qui est intéressant, c'est que le perroquet est aussi un animal, un oiseau qui est enfermé, qui est emprisonné dans une cage, et là elle le laisse complètement libre dans l'espace de son propre atelier. Donc la cage s'ouvre, elle essaye de créer une relation presque animiste avec cet oiseau.
Oui, parce que c'est un perroquet qui ne parle pas, il faut le dire.
Il ne parle pas encore.
Il la regarde.
Il la regarde. Elle masque d'ailleurs une partie de son visage pour essayer d'entamer une sorte de dialogue, un contact visuel avec le perroquet. Et on retrouvera par la suite l'importance des plumes d'oiseaux, de l'oiseau comme le symbole de l'envol et de la métamorphose dans l'ensemble de son travail.
Alors là, on voit effectivement les plumes qui se lèvent. Il va y avoir cette idée aussi de se mettre dans la peau de la bête. Emma Lavigne, il va y avoir à plusieurs moments dans son œuvre l'idée de cacher une partie de son regard, d'essayer de reproduire la vision qui est celle de l'oiseau.
En effet, Rebecca Horn va travailler d'ailleurs dans cette espèce de conscience d'une proximité très forte avec le monde animal que l'on retrouve chez un artiste qu'elle aime énormément, qui est Joseph Beuys. Et donc, cette fusion des règnes est très présente et les visiteurs vont pouvoir voir à quel point Rebecca utilise la parure animale, les plumes, pour créer toutes sortes de masques, toutes sortes de costume. Donc c'est faire cette confusion des règnes et puis aussi il y a quelque chose de presque plus archaïque, de plus animiste qui nous renvoie aussi à l'intérêt de Rebecca Horn, presque une forme d'anthropologue finalement qui s'intéresse aussi à la façon dont d'autres cultures, d'autres civilisations, notamment comme les Indiens d'Amérique, des sociétés donc en Afrique, ont pu utiliser la parure comme aussi une sorte de dispositif qui permet d'accéder à une autre conscience du monde.
Alors ça marche aussi dans les deux sens puisque le perroquet lui-même accède à un statut presque humain, il est devant son miroir, il y a des jeux de doubles qui se passent. Alors ça c'est du côté du cinéma et du film de cette première salle, mais il y a aussi un objet tranchant qui tourne ici, justement, et c'est Cutting Through the Past. C'est une installation.
Cutting Through the Past est une installation très théâtralisée qui accueille les visiteurs et l'on voit donc cinq portes, des portes anciennes. Certaines sont recouvertes de miroirs, toujours la question du reflet, du double, de la façon dont notre image est reflétée, mais cette image peut aussi se transformer. On a l'impression d'être un petit peu comme aussi dans Barbe Bleue où on sent qu'il y a des portes et que derrière ces portes, il se passe quelque chose de l'ordre d'un danger ou en tout cas d'une métamorphose possible, et ces portes sont comme entaillées par une grande pique, une lame qui vient les tailler comme un corps. Alors il y a aussi toujours cet humour de Rebecca Horn, et l'on
un
peut
peu
penser...
cruel, hein, de l'humour un peu cruel,
oui,
un peu tranchant.
Un humour tranchant, c'est le cas de le dire, mais un quelque chose qui renvoie à des dispositifs comme par exemple dans des numéros de cirque ou dans des baraques foraines, ces femmes souvent qui se font transpercer, qui rentrent dans une boîte et tout à coup quelqu'un leur lance des couteaux et puis elles sortent de façon intacte.
C'est l'idée du spectacle, du prestidigitateur.
Il y a quelque chose de l'ordre de la magie, du spectacle, du théâtre. Donc elle vient emprunter à plusieurs registres. Elle est aussi très au fait sur ces espèces de dispositifs et d'environnements avec ce que d'autres artistes de la scène contemporaine développent, à l'instar de Bruce Norman, qui vient lui aussi créer des dispositifs isolants, comme ces fameux corridors dans lesquels on rentre et qui oppressent le corps. Chez Rebecca Horn, il y a toujours cette idée que l'installation est aussi un processus de transformation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une initiation où ce corps qui a été prisonnier, son propre corps qui a souffert, peut se métamorphoser et va vivre de cet état d'isolement quelque chose de l'ordre d'une concentration renforcée de ses capacités à se projeter dans un second temps dans le monde.
Donc on a... Oui, Malavigne, il y a eu cette expérience du sanatorium dont vous avez parlé, cette expérience qu'elle a connue, elle, d'intoxication. Et finalement, ce travail sur le corps et cette expérience médicale va la fasciner. On va retrouver des prothèses, des objets médicaux un peu tout le temps. Et cette métamorphose, elle va arriver dans son art. Alors là, c'est une expérience un peu de claustrophobie. On est devant une immense boîte noire.
Une boîte noire, comme une sorte de porte à tambour d'un hôtel dans laquelle elle nous invite métaphoriquement à rentrer. Ces portes sont en train de tourner comme une roue. Le thème de la roue est très présent dans son travail. Et à l'intérieur de cette installation, on est ensuite plongé dans l'obscurité pendant 2 minutes et l'on entend des voix qui susurrent en chinois quelque chose de l'ordre d'une initiation. Donc on est à la fois angoissé, en même temps il y a une voix qui nous parle. On sent que on va accéder presque à un autre niveau de conscience. Donc Rebecca Horn fait aussi référence à toutes sortes de techniques un peu New Age qui se développent dans ces années-là, de caissons d'isolation sensorielle. Enfin, il y a quelque chose où le corps contraint est aussi soigné, transformé, et en effet elle vient utiliser toutes sortes de registres que l'on a par exemple dans les hôpitaux psychiatriques dès la fin du 19e siècle, de corps que l'on emprisonne.
Il y a un côté Frida Kahlo dans ce dispositif-là un peu.
Tout à fait, elle est complètement fascinée par le travail de certains artistes, notamment Frida Kahlo qui a aussi subi ce traumatisme d'un corps souffrant, d'un corps qu'il faut réinventer par imaginaire. Et elle est aussi fascinée par les artistes dadaïstes et surréalistes qui, après la Première Guerre mondiale, qui a été l'épreuve des corps morcelés, des corps et des gueules cassées, des corps qu'il va falloir compléter par des prothèses. Et l'on sait combien nombreux artistes du surréalisme, dont on montre certaines œuvres dans l'exposition, comme notamment Man Ray, vont inventer toutes sortes de prothèses, mais qui sont en même temps une réalité de cette après-Première Guerre mondiale. Donc les dadaïstes et les surréalistes vont travailler avec la réalité de corps fracturés qu'ils viennent projeter dans un autre imaginaire.
Alors il faut dire, parce qu'on parle beaucoup de cruauté, de violence, et il y a cet univers-là chez Rebecca Horn, mais il y a aussi une très grande esthétique visuelle, esthétique sonore. Là, on est devant les premiers films dans lesquels le corps est travaillé. Alors avant la période des prothèses, il y a eu d'abord la métamorphose par la peinture un peu tribale, Emma Lavigne.
Voilà, il y a cet aspect chez Rebecca Horn qui n'est pas du tout connu, c'est la façon dont elle est fascinée par le rituel, par le chamanisme, on voit là le corps d'une femme qui est recouvert progressivement de peinture noire, et la peinture noire vient jusqu'à absorber complètement le corps qui disparaît. Une autre œuvre, Blau, 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 qui veut dire donc bleu, bleu, on voit une femme nue qui nous fait face et qui progressivement va être aussi recouverte de points de peinture. Ça évoque un petit peu aussi les performances de Kusama. Ah,
c'est une sorte de varicelle bleue hein, qui lui arrive sur le corps.
Une varicelle bleue, voilà. Et ce rituel se fait au son donc de chants qui évoquent les polyphonies pygmées. Donc c'est en ça que le travail de Rebecca Horn est d'une certaine façon inclassable.
Il y a sur le mur une camisole qui s'agite toutes les 3-4 minutes peut-être devant un film qui met en scène une sorte d'hôpital psychiatrique. Alors peut-être qu'il va falloir nous expliquer, Emma Lavigne, quelle est cette idée de l'hôpital. On a parlé de l'enfermement, mais pourquoi la psychiatrie? Ça n'a pas été pour le coup son expérience personnelle à Rebecca Horn à l'époque.
Alors, en effet, nous sommes dans une salle où l'on découvre les premières images d'un des trois longs métrages de Rebecca Horn. Ce film s'appelle Buster Bedrooms. Et donc, c'est un hommage à Buster Keaton qui a passé dans une clinique en Californie qui s'appelait Nirvana, de longues cures de désintoxication. Buster Keaton symbolise pour Rebecca Horn cet être en quête d'une liberté qui essaie de conjurer le sens de l'absurde qu'il met en scène dans ses films pour toujours davantage aller vers une liberté infinie. Et donc on voit une jeune femme qui
La camisole s'agite en même temps qu'on parle.
Tout à fait, parce que on a essayé de mettre en relation ce qui est le souhait évidemment de Rebecca Horn, le va-et-vient permanent qu'elle fait entre le film et après le tournage du film, certains costumes comme cette camisole, certains objets continuent à vivre leur vie et sont animés par toutes sortes de dispositifs et de mécaniques qui viennent comme une horloge plus ou moins dingue et déréglée à la manière des automates, par exemple, et des machines de Raymond Roussel. Il y a des rythmes qui ne sont pas ceux que l'on peut réellement quantifier, des rythmes qui travaille avec le hasard, avec l'aléatoire, mais tout est mis en mouvement. Et là, on voit en effet tour à tour cette jeune femme qui se retrouve contre son gré enfermée dans cette clinique psychiatrique où ils sont tous dingues, à commencer par les médecins. Et ce qui est très drôle dans ce film, parce qu'il y a un humour extraordinaire, c'est que le directeur de la clinique et la plupart des médecins ont pris la fuite tellement leurs patients sont dingues, mais les patients et un médecin fou veulent continuer à rester dans cette clinique parce que où s'arrête la folie, où commence la raison, c'est comme si la folie était finalement davantage contenue à l'extérieur de cette clinique.
Alors il y a cette idée quand même de l'enfermement du corps, de l'enfermement des murs, mais du corps enserré. La camisole, c'est aussi l'expérience de la camisole dont on se libère. Paraît-il que ça a été aussi l'expérience de Buster Keaton, formé par les prestidigitateurs, qui a su lui-même se libérer aussi de la camisole. Emma Lavigne.
Il y a en effet quelque chose que, quitte à être emprisonné, quitte à être enfermé, on va développer une conscience de sa propre énergie qui est décuplée. Et en effet, dans une sorte de tour de passe-passe qui emprunte à la magie, à Buster Keaton, au cinéma de Méliès également, la jeune femme va réussir à se libérer donc de cette fameuse camisole. Et la camisole que l'on voit accrochée au mur hein, comme une sorte de dépouille, elle continue à taper, à vivre comme si elle aussi, à son tour, elle souhaite être libérée d'elle-même. Donc il y a quelque chose de très drôle parce qu'il y a aussi vraiment de l'humour, même si, comme vous l'avez souligné, cette expérience du sanatorium et de l'enfermement fait que finalement, dans les trois longs métrages faits par Rebecca Horn, à chaque fois, l'intrigue se passe dans des huis clos.
Alors là, elle rejoue cette expérience de Buster Keaton de l'hôpital psychiatrique. Il y a plusieurs périodes qui sont représentées, puisque c'est une cinquantaine d'années de création qui sont représentées dans l'exposition Rebecca Horn du Centre Pompidou à Metz. Il y a cette période des extensions qui arrivent, alors extensions au sens large, il va y avoir la licorne, et il y a toutes ces extensions qui arrivent sur la tête des performeurs qu'elle filme.
Alors, ce qui est très fort dans son travail, et là, c'est en effet quelque chose que l'on peut souligner, même si elle n'a pas eu d'expérience en médecine psychiatrique, c'était vraiment la question de soigner ses poumons. Il y a une conscience de l'emprisonnement des âmes également. Et elle est d'ailleurs très proche d'Antonin Artaud, qui a été interné évidemment pour soi-disant folie. Et donc, elle a d'ailleurs réalisé des installations dans un hôpital, une grande installation dans un hôpital psychiatrique à Vienne. Donc, elle va même jusqu'à créer des installations pour des hôpitaux psychiatriques. Et quand elle vient créer ces extensions de la tête symboliquement est protégée et comme mise en correspondance avec quelque chose qui transcende l'humain et avec l'espace. Donc il y a quelque chose de très beau chez Rebecca Horn, c'est qu'elle oublie sa propre souffrance pour inventer des performances qui impliquent d'autres corps que le sien, même si elle vient donc, elle aussi à son tour, entourer les corps des performeurs. Et on a évidemment...
Avec des bandages, avec des bandes. Alors il y a toute l'idée aussi de l'héritage de la psychanalyse et de Freud qui se retrouve dans le corps. Les corps ne sont pas que des corps. Ici, on voit la licorne. Alors la licorne, c'est une femme nue, il faut expliquer.
Alors c'est une femme nue, ce que l'on voit. C'est une femme nue qui est absolument sublime. Donc son corps est comme dans un harnais de bandages, de bandelettes, qui évoque toujours l'univers médical, la psychiatrie également. Elle a cette tête qui est protégée par une immense corne, mais son corps n'est pas souffrant vu qu'elle se balade par un très beau soleil à travers un pré. Puis ensuite, on voit son corps comme une apparition, comme dans un conte, comme dans une vision, comme dans un rêve, traverser également une forêt. Cette performance n'a eu lieu qu'une fois. Ça n'est pas Rebecca Horn qui fait cette performance, mais une jeune femme. Et évidemment, on ne peut que penser à son propre nom. La performance s'appelle La Licorne, en allemand Ein Horn, et donc son nom est Rebecca Horn. Donc c'est comme un autoportrait.
Oui, Malavine, dans cette exposition, il y a les films, il y a les performances, il y a les croquis, mais il y a aussi les accessoires et les machines. Il y a tout un monde lié à la machine chez Rebecca Horn. Là, on rentre dans une salle qui s'appelle Parade nuptiale et danse macabre, avec tout un tas de machines sur les murs, un matériel un peu d'Icare, on dirait.
Icare est omniprésent, la question du vol aussi, la question de la mue des animaux. Et en effet, cette salle en hémicycle, on l'a envisagée comme une sorte de chorégraphie où l'on peut voir combien les choses se métamorphosent dans l'œuvre de Rebecca Horn. Alors, on est accueilli par un éventail pour un corps où l'on voit le corps de Rebecca Horn porter un immense éventail de tissus gris, et elle vient jouer avec cet éventail. Cela peut faire référence à d'autres performances beaucoup plus anciennes, comme aux danses de tissus, la fameuse danse serpentine, par exemple, d'une Loïe Fuller, qui venait aussi faire disparaître son corps sous toutes sortes de voiles. Et Rebecca Horn, quand son corps est complètement masqué par l'hémicycle ou ce cercle de tissu, eh bien, fait corps elle-même avec l'ensemble de l'espace. Nous avons également la fascination de Rebecca Horn pour le pan.
Alors là aussi, c'est un pan qui ressemble à une machine. Il faut qu'on parle un peu des machines, Emma Lavigne.
Voilà, tout à fait. On est toujours entre deux règnes. Donc ce pan a été complètement déplumé. C'est comme s'il ne lui restait qu'une partie de sa structure, de son squelette. Et ce squelette s'est transformé presque en une machine de guerre qui vient lancer vers nous ses lances, ces tiges qui sont finalement très, très menaçantes. C'est une machine célibataire comme les aimait donc Marcel Duchamp. On ne sait pas trop ce que fait cette machine, mais l'on peut voir à travers différents extraits de films que cette machine elle-même, dans un des films de Rebecca Horn, La Ferdinanda, se transforme et qu'elle se pare à nouveau de plumes. Donc c'est comme si l'animal mort revivait de façon cyclique, aussi bien à travers une sorte de roue artificielle où l'on voit ses plumes se déployer, et puis tour à tour, cette roue de séduction devient au contraire une sorte de danse macabre, de combat, où l'animal qui a été ainsi sacrifié devient presque une menace pour l'homme.
Alors il y a cette autre roue face à elle, cette roue recouverte de plumes, cette machine qui tourne sur elle-même et qui, comme un éventail, se replie et se déploie, qui est une machine extrêmement belle. Peut-être on pourrait l'activer, Emma Lavigne ?
Alors, en effet, nous sommes devant une œuvre absolument magnifique qui s'appelle La Douce Prisonnière. Donc, encore une fois, une prison peut être un cocon, comme l'enfermement peut être aussi une chrysalide. Et donc cette roue de plumes d'autruche, elle est comme un très grand éventail à l'échelle d'un corps, et elle sert de costume pour une danseuse que l'on voit apparaître dans le film Der Eintänzer, le danseur mondain. Et donc cette roue existe pendant le tournage, mais Rebecca considère ces machines comme des catalyseurs d'émotions. Et donc, cette roue, finalement, elle continue à vivre. Elle continue à faire sa roue, à faire sa parade, à faire sa danse de séduction pour les visiteurs. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des plumes d'autruche. Alors, on peut penser aussi aux plumes des cygnes, hein, et à l'importance du cygne dans la danse. Pensons au lac des cygnes, bien sûr. Mais l'on peut penser aussi, avec toujours cette espèce d'humour de Rebecca, à toutes ces plumes d'autruche, des costumes de French cancan ou ces numéros de cabaret. Donc, on est à la fois dans le monde de la douceur, dans le monde de la séduction et de l'érotisme également, que l'on retrouve dans d'autres danses. De cabaret, par exemple.
Alors, ces plumes ne vont plus la quitter d'une certaine manière, Emma Lavigne, puisque ça va devenir une partie très importante de l'œuvre de Rebecca Horn. Les plumes sous toutes leurs formes, d'ailleurs, les plumes qui recouvrent la tête, qui forment des masques qui rendent la performeuse aveugle, les plumes dans des valises.
Alors, nous avons en effet de nombreux masques. Il y a plusieurs aspects dans ces parures de plumes. Déjà, la conscience très forte qu'elle partage d'ailleurs avec certains artistes du surréalisme dont on peut voir les œuvres, comme Meret Oppenheim ou Claude Cahun, qui toutes deux, et puis bien sûr également Cocteau avec La Belle et la Bête, mais Claude Cahun et Meret Oppenheim, Meret faisait beaucoup de masques pour le carnaval de Bâle, ont la conscience que finalement, le masque est social et que notre visage porte les stigmates d'une société conformiste, répressive, surtout pour des artistes femmes telles qu'elles étaient, qui se sont battues pour que vraiment il y ait une sorte d'abolition de la notion même de genre et que le genre neutre, comme le réclamait Claude Cahun, puisse apparaître comme un genre à l'instar du masculin ou du féminin. Donc Rebecca déjà vient brouiller les pistes. Et le masque déjà permet de quitter ses conventions sociales et d'être tour à tour masculin et féminin. Et l'on voit par exemple une robe de plumes blanche comme une robe virginale, comme une robe de mariée.
Des plumes qui se soulèvent, hein, comme des stores vénitiens.
Alors cette robe est portée par un homme, très chevelu d'ailleurs, j'ai presque envie de dire très poilu si vous acceptez, parce que en fait cette robe, comme un store vénitien, est activée par deux femmes qui, avec malice, viennent soulever certaines parties de la robe, et l'on découvre le corps nu de ce performeur. Donc il y a beaucoup de jeu, beaucoup d'humour, beaucoup de séduction également, et les plumes permettent tout à la fois d'abolir la frontière entre le règne animal et l'homme, vu que Rebecca va jusqu'à recouvrir son propre visage de masque. Alors, un masque noir, elle ferme les yeux pour accentuer l'idée du toucher comme un nouvel organe tactile qui aurait pris place sur son visage. Et elle vient caresser le corps d'un homme et la tête d'un homme avec ce masque facial.
Alors avec cette question du genre, on la retrouve justement, Emma Lavigne, devant cette performance nommée Performance 1. Et là, c'est un corps de femme qui se recouvre peu à peu de poils. Ses poils pubiens montent sur sa poitrine et on arrive dans une sorte de mélange des genres.
Ce mélange des genres est omniprésent. Rebecca Horn n'est pas fascinée pour rien par le travail de Jean Cocteau et tout particulièrement La Belle et la Bête. Elle interroge aussi les critères esthétiques de notre société et la façon dont notre volonté d'abolir, de réduire toute cette pilosité qui culturellement n'a plus sa place dans les canons esthétiques, eh bien, elle les revendique, elle va jusqu'à les accentuer avec énormément d'humour, et ses poils pubiens deviennent tout à coup comme une sorte de fourrure ou un pelage qui vient recouvrir le corps de la femme.
Donc c'est plus simplement le genre, mais c'est la transformation de la bête.
C'est la métamorphose, et en effet, on est dans toutes sortes de processus d'hybridation, de chimère également. La façon dont le corps est libre et doit se libérer pour inventer d'autres modalités, d'autres esthétiques, d'autres modes de séduction. Et le corps se reconnecte à des formes d'archétypes, finalement.
Avec quelque chose aussi d'un peu terrifiant. Elle est très marquée par ce cinéma aussi d'après-guerre, par ces images très fortes, à la fois humoristique et cruelle. Ça parle fort dans la salle d'après Emma Lavigne. On arrive dans une salle de projection de cinéma.
Alors nous avons souhaité véritablement que le cœur de l'exposition soit une salle de cinéma, et donc nous présentons les trois films très importants de Rebecca Horn que l'on ne connaît pas du tout, donc Der Eintänzer, le danseur mondain, qui date de 1978, ensuite la Ferdinanda, Sonate pour une Villa Médicis, qui date de 81, et puis son dernier film Buster's Bedroom, la chambre de Buster, qui date de 1990.
Donc là, c'est le premier, c'est la danse.
Alors, nous arrivons dans le film La Ferdinanda, où l'action se passe dans une villa Médicis, donc dans une sublime villa. Il y a une cantatrice toujours un petit peu fantasque, comme le sont très souvent les personnages dans les films de Rebecca Horn. Et dans cette villa, qui a été une sorte de théâtre de la cruauté, où il se passe un mariage, mais toutes sortes d'actions très étranges, eh bien là, on assiste à un accident. Un jeune homme homosexuel a été attaqué dans le parc de la villa. Donc toujours cette conscience très très tôt chez Rebecca Horn, justement du genre, de la question de la liberté, notamment de la liberté érotique, sexuelle, l'homosexualité. Donc c'est des thèmes la question du désir est aussi très présent dans son cinéma. Mais ce désir est sans arrêt finalement contré par le danger, par l'angoisse, par la question du contrôle, par la mort. Et ces espaces clos, ces huis clos, sont très souvent, comme là, habités par des médecins ou des gens qui évoquent le contrôle, qui évoquent même le nazisme, qui cherchent à contrôler les individus. Et là, nous voyons d'ailleurs un médecin essayer de reprendre une sorte de pouvoir dans la villa, alors que la villa est en train de célébrer un mariage.
Il y a une scène extraordinaire qu'on peut voir dans l'un de ses films, Emma Lavigne, c'est cette scène de la balançoire. Est-ce que vous pourriez nous en faire un récit bref ?
Cette scène prend place dans le film Der Eintänzer, le danseur mondain. Nous sommes dans l'atelier de Rebecca Horn à New York, qu'elle transforme en studio de danse. Et on voit deux jumelles rousses, comme Rebecca Horn, comme autant de doubles d'elle-même, qui habitent également ce studio de danse. Et une des jumelles qui adore se balancer, il y a une balançoire qui est installée dans l'appartement et à proximité de d'une fenêtre. Eh bien,
d'une fenêtre ouverte.
La fenêtre est ouverte, elle laisse passer l'air, le soleil, et l'air de rien, en se balançant un petit peu trop fort, eh bien, une des jumelles se retrouve à passer par la fenêtre, et puis on la retrouve morte en bas de la rue. Donc, il y a à la fois cette légèreté, et puis ce drame qui n'est jamais loin.
Et cet humour, puisqu'il y a un personnage aveugle dans la pièce, qui ne se rend compte de rien.
Ce danseur aveugle qui veut apprendre à danser le tango, eh bien évidemment, est très frustré de ne pas pouvoir continuer sa conversation et cherche à tâtons désespérément cette jeune femme qui se retrouve morte en bas dans la rue.
Alors il y a cet humour, on le retrouve à plusieurs reprises. On retrouve aussi tout un tas d'objets dansants, de tables dansantes et de petites bêtes. Ici, on est devant des papillons, on est devant même un lit papillon. Emma Lavigne.
Tout ce qui vole, tout ce qui se transforme, tout ce qui est attrait donc à l'oiseau, mais surtout au papillon, parce que le papillon, c'est l'insecte qui symbolise la beauté, mais la transformation donc qui part d'un cocon, d'une chrysalide. Donc on peut voir des œuvres de Rebecca Horn qui sont mises en dialogue avec d'autres libellules, papillons, cocons de Max Ernst ou Meret Oppenheim. Et là, il y a un lit de métal peint en blanc qui provient du film La Ferdinanda, et l'on peut voir cette fameuse cantatrice qui invite tous ses amis à célébrer un mariage dans sa sublime villa, qui sourit habillée de rose et qui est entourée de papillons bleus. Ces papillons, elle leur a donné les noms de ses anciens amants, et après le film, ce lit devient, comme souvent chez Rebecca Horn, une sculpture, une installation, et l'on voit ces papillons bleus continuer à battre des ailes.
Alors ça, il faut le raconter, Malavine, ce sont des petites machines, les papillons sont sur une structure en métal et ils volent tout doucement sur le lit.
Voilà, c'est le souvenir des anciens amants de cette cantatrice. La cantatrice semble, elle, avoir bel et bien disparu, mais les papillons continuent à battre des ailes et à faire vivre finalement ce désir donc pour la cantatrice.
Alors il y a cette question aussi de la violence corporelle, de la torture. Elle est très marquée par cette après-guerre en Allemagne dans laquelle elle est élevée. Il va y avoir des œuvres qui font directement référence au sang, à la torture. Malavigne, devant deux chaises.
La torture est très présente. L'idée de cruauté est omniprésente. Elle est très marquée aussi par la pensée d'Antonin Artaud. Cette idée d'un théâtre de la cruauté, c'est pas parce que les thèmes sont cruels, mais c'est davantage du fait que l'art, comme le théâtre, doit nous arracher la peau. C'est-à-dire, l'art doit nous rendre plus sensibles, plus conscients de la violence. Et là, nous avons une œuvre qui s'appelle « Le délice des évêques », où deux prie-dieu se fracassent l'un contre l'autre, et il y a des éclaboussures de peinture qui évoquent le sang. C'est une pièce qui a un contenu très anticlérical, et Rebecca Horn est fascinée aussi par cette portée à charge qu'un Buñuel vient aussi développer dans son cinéma. Et ces deux chaises sont parfois immobiles et parfois sont engagé dans quelque chose qui évoque la tauromachie et une violence absolument très très forte qui vient gicler même dans l'espace de l'œuvre. C'est le cas aussi d'autres dessins de ce qu'elle appelle les body landscapes, comme ce grand dessin où l'on a l'impression que le propre sang de Rebecca Horn vient éclabousser en quelque sorte la surface immaculée du dessin.
Et Malavigne, vous faisiez référence à la guerre et à l'après-guerre. Il y a cette dernière œuvre de l'exposition qui met en scène des verres brisés, justement, des sons d'abeilles, et qui fait référence aussi à l'univers des camps de concentration.
Rebecca Horn est très marquée par la Seconde Guerre mondiale. Il y a énormément d'œuvres in situ qu'elle a réalisées par rapport à l'Holocauste, et notamment cette œuvre tout à fait extraordinaire qui s'appelle Concert für Buchenwald, un concert pour Buchenwald, un concert pour ce camp de concentration. Elle vient jouer sur tous les registres émotionnels de la musique. Elle va préférer presque à l'harmonie la recherche de dissidence, des sonorités presque
cacophoniques,
dissonantes, inspirées par la force musicale de Fluxus, pour que la musique soit aussi à son tour une arme contre cette société qui a produit l'Holocauste. Et donc, dans cette grande installation à Weimar, elle est conçue en deux parties. Une partie reste sur place à Weimar. Il y a des guitares qui sont superposées, des guitares devenues silencieuses, comme autant de corps sortant des camps de concentration. Donc, une installation absolument bouleversante. Donc, la première partie est constituée de ces guitares entassées, mortes, qui n'ont plus de son à produire. Et puis, la deuxième installation, qui était aussi exposée à Weimar dans la résidence d'été de Goethe, dont les fenêtres donnent d'ailleurs sur le camp de concentration de Buchenwald, eh bien, nous sommes là face à un ensemble de ruches. Ces ruches sont évidées. Et
on les entend d'ailleurs, ces abeilles.
On entend des abeilles comme affolées qui sortent de la ruche. Donc la ruche évoque aussi ces fameux cocons que l'on a vus tout au long du parcours de l'exposition. Les lieux où les abeilles viennent créer, viennent fabriquer le miel, eh bien ces ruches sont évidées, ne sont plus des cocons, ne sont plus des maisons, ne sont plus des abris, mais le lieu qui symbolise au contraire la fragilité de la vie face à la destruction de l'histoire.
Il y a ce rapport à l'histoire, Emma Lavigne. C'est la fin de cette exposition, cette dernière installation. Et il y a cette pierre qui est tenue par un fil qui vient comme se briser sur un miroir, mais elle s'arrête juste avant. Alors là, il y a encore quand même une volonté d'humour, de recul par rapport à ce qui se passe, et en même temps l'idée de faire peur.
Alors, il y a l'idée de faire peur, mais je pense que cette œuvre-là traduit vraiment l'œuvre de Rebecca Horn, donc cette conscience politique de Rebecca Horn. Et on voit en effet un pavé qui vient symboliser tous les soulèvements de l'histoire, se fracasser contre un miroir. Il y a toujours cette espèce de tension, de danger imminent. Il y a quelque chose aussi qui fait référence au cinéma et qui s'appelle le suspense. Donc on ne sait pas si cette pierre va venir détruire l'œuvre jusqu'au bout. Il y a quelque chose de très fort dans ces bris de verre qui évoque aussi tous les pogroms qui avait lieu avant donc la guerre, et notamment toutes ces vitres, tous ces miroirs, toutes ces boutiques tenues par des commerçants juifs qui étaient régulièrement saccagées. Et puis le miroir, c'est aussi la façon dont on peut se regarder, dont l'humanité peut se transformer, peut évoluer. Et symboliquement, ce miroir qui a aussi été très très présent tout au long du parcours, ce miroir ne permet plus de refléter autre chose que la violence. Donc il y a quelque chose d'une prise de conscience très lourde dans cette dernière installation qui clôt le parcours.
Merci Emma Lavigne. On pourra voir donc cette exposition jusqu'au 13 janvier 2020 au Centre Pompidou-Metz.
Merci beaucoup. I tend to change my head too much. It has become my ruination. My friend, she keeps on warning much for financial decapitation. On top of that, it's true, I see. People never recognize me. On top of that, she's right, I see. Ain't got no style, I'm nobody. I'm nobody, I'm nobody. I'm nobody, I'm nobody. I'm nobody. I know.
Light.
Et on écoute Charlotte Adigéry, Highlights, extrait de l'EP du même nom, sorti en ce début d'année 2019. La Gantoise sera en concert à Dijon le 30 août et le 14 août à Lefinge en Belgique, et le 27 septembre à Tourcoing et le 23 octobre à Paris. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez. C'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité l'écrivain Donald Ryan. Mélodie attend un heureux événement. Enfin heureux, tout dépend de quel point de vue on se place, car l'attente de l'enfant pose toutes sortes de questions morales et philosophiques sur l'amour, le couple, questions dont la complexité se trouve décuplée à l'échelle d'un petit village du comté de Limerick en Irlande, où le contrôle de la vie de chacun est à portée de regard. Avec ce roman journal de grossesse intitulé « Tout ce que nous allons savoir », l'écrivain multiprimé Donald Ryan se fait l'écho des mauvaises pensées qui nous traversent en silence et que nous livre son héroïne à ciel ouvert. Donald Ryan est aujourd'hui l'invité de la Grande Table d'été. Il est traduit par Xavier Combes. Donald Ryan, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous venez présenter ce nouveau livre qui a de semblable à d'autres, en tout cas à celui qui vous a fait le plus connaître, justement, The Spinning Heart, cette voix que vous faites entendre d'un milieu rural, d'un milieu populaire, qui est le centre de votre écriture, du sujet, mais aussi de la langue.
Sure is, yeah. There's a rural demotic that kind of gave me the ability to write.
En effet, c'est justement cette voix des gens qui vivent dans cette communauté rurale qui me font écrire.
Because for years I wrote in a very false voice. Kind of elevated,
j'ai écrit
voice for some bizarre reason.
D'une voix de la classe moyenne britannique. C'était un peu étrange pour
and
moi.
Of course it always felt
et
fake
bien entendu, ça sonnait faux dans mon esprit et sous ma plume,
so
quelque peu artificielle. Donc, l'idée toute simple d'écrire de ma propre voix, de la voix des gens qui sont autour
there, so
de moi, a toujours été présente, si évidente dans mon esprit. Et ça m'a permis de me lancer, d'écrire de manière sincère, honnête.
Donc Donald Ryan, l'écriture, ça a été pour vous avant tout un voyage vers soi, un retour vers la terre des origines, le comté de Limerick dont vous êtes originaire, en tout cas juste à côté, Tipperary, et le retour vers ces gens que vous avez fréquentés toute votre enfance, votre jeunesse, ce milieu qu'on appelle working class, qui est en réalité le milieu des gens de la campagne et des travailleurs, d'un village.
Yeah, for sure.
Oui, c'est ça, oui.
It's kind of the journey I took, and because I think you have to look
c'est un parcours,
inwards as much as outwards as a writer.
Regarder vers l'intérieur quand on est écrivain,
autant
qu'à l'extérieur, mais en même temps, il faut savoir se fixer des limites.
Pourquoi
je ne dirais pas que je suis un artiste qui souffre, mais je dois dire que ça doit être quand même assez pénible parfois, parce que on est sans arrêt en la recherche de quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher du doigt. Parce que l'art, évidemment, et l'écriture est un art, c'est très chouette si on arrive à mettre son doigt dessus, une espèce de conclusion, et ça permet de représenter ce qu'est l'existence pour quelqu'un d'autre, pour le spectateur ou le lecteur. Évidemment, on n'est jamais sûr du résultat.
Donald Ryan, il y a eu à la fois ce matériau d'origine de, justement, le County Limerick, que vous connaissez bien, mais il y a aussi ce travail de transformation. Et le travail de transformation, dans l'écriture, ça passe par le fait de devenir une narratrice, une femme, en l'occurrence votre personnage Mélodie, qui écrit son journal de grossesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la structure de ce livre, tout ce que nous allons savoir?
I'm not sure exactly why Melody was perhaps the easiest character for me to write of all.
J'ai choisi Melody, c'est vraiment la voix la plus facile, la plus accessible pour moi. Sa voix a résonné de manière très sincère, très vraie dans mon esprit. Et encore une fois, je ne peux pas être certain si c'est bien ou pas, parce que évidemment, J'essaye de me mettre dans la peau de Mélodie, j'essaye d'exister au quotidien, et je dois dire que ça est venu assez facilement. Ça. Et Mélodie, elle m'a permis d'écrire assez facilement. J'ai une véritable affection pour ce personnage. J'étais assez déconcerté lorsque certains l'ont décrit comme étant représentative du mal, comme une mauvaise personne. J'ai pas très bien compris cette critique, à moins d'écrire dans la voix d'un personnage unidimensionnel, ça ne peut pas être vrai. Évidemment, il ne faut pas être manichéen. Et du reste, c'est le propos de mon livre, en quelque sorte.
Si on veut bien écrire, on ne peut pas faire semblant. Je suis beaucoup plus intéressé par la fragilité, la partie cachée, l'intériorité d'un homme ou d'une femme que par l'autre vie. Nous sommes pour la plupart hypocrites et menteurs la majorité du temps, et nous le cachons. Nous ne voulons pas que ça sache, on ne veut pas de notre vulnérabilité, de notre sexualité, de nos côtés scandaleux. On ne veut pas laisser de place à ces choses-là. Mais moi, je veux connaître ces choses-là. Et je pense que c'est le cas de tous les écrivains. Même ce cher Tchekhov a fini par écrire Les Trois Sœurs en disant « J'en ai assez d'elles, je m'en débarrasse ». D'une certaine façon, les auteurs sont sans racines. J'ai toujours pensé qu'ils étaient en quelque sorte surhumains, puisqu'ils pénètrent à l'intérieur, qu'ils ont accès aux émotions des autres, à leurs vibrations, et après ils les jettent comme un vieux Kleenex. Et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle je ne vis pas dans un petit village irlandais. Ce serait compliqué dans mon cas.
On entend Edna O'Brien, la grande écrivaine, écrivaine aussi à Scandale. Elle était interviewée par Russell Harty dans Edna O'Brien, Mother's Island, sur BFI en 1976. Donald Ryan, est-ce que justement cette idée de l'écrivain qui vient révéler la personnalité intérieure, d'un écrivain qui vient finalement gratter dans la personnalité invisible, celle qui n'apparaît pas socialement, est-ce que c'était là cette idée, puisque vous choisissez comme thème la grossesse de cette femme qui va lui permettre d'être un personnage à ciel ouvert, un personnage qui a des mauvaises pensées parfois, en tout cas qui est libre, qui devient complètement libre du regard social.
Yeah. A Melody's absolute freedom was
oui,
my, was my goal.
La liberté absolue de Mélodie, tel était mon objectif. Le rétrécissement de la distance entre le lecteur et l'esprit de Mélodie, c'est ça que je visais. Pratiquement tous mes personnages ont un discours intérieur chaotique. Et il y a des choses que mes personnages ne sont normalement pas prêts à révéler. Nous sommes tous menteurs d'une certaine façon. Nous n'allons pas exprimer qui nous sommes, nous n'allons pas nous révéler tous.
Mais non, Brian, elle dit même hypocrite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit?
Ah oui, tout à fait d'accord, oui.
Kind of to have daily ordinary quotidian transactions we need to be
dans nos transactions, dans nos échanges au quotidien, il nous faut être un peu hypocrite.
It's just how society is structured necessarily. I mean, imagine the chaos.
C'est ainsi que se structurent les relations. Imaginez le chaos si nous décidions un beau jour de tous devenir honnêtes, sincères, ouverts.
It's kind of why we need narrative. I think it's why we need art.
C'est pourquoi il nous faut le récit, l'art. Parce que c'est là que s'exprime la possibilité de décrire l'humanité ou de l'étude de la personnalité humaine.
Donald Ryan, justement, tout ce que nous allons savoir, c'est un roman qui travaille sur l'intériorité de cette femme, Mélodie, de cette grossesse aussi, et de ce personnage qui s'ouvre au fur et à mesure que la transformation corporelle opère. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Il y a, au départ de cette histoire de grossesse, un tabou?
Oui, en fait, assez tôt dans le récit, on apprend que Mélodie est mariée à Pat, elle est enceinte, mais l'enfant n'est pas celui de son mari. Elle est enceinte d'un jeune de la communauté des gens du voyage à qui elle a appris à lire et écrire.
Donc c'est ça le scandale.
Alors cette question-là de la tension intérieure et du regard social, on est à l'échelle d'un village, dans un milieu rural où chacun se connaît, où il y a une sorte de surveillance permanente sur les mœurs de chacun et où en même temps, chacun a ses secrets. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce jeu de miroir, puisque finalement Mélodie est un personnage libre, mais quelque part aussi un peu folle. Vous la décrivez comme ayant des crises de folie. Cette tension-là entre les démons intérieurs et le regard social, ça crée justement cette folie, Donald Ryan ?
I guess we're all constricted. I mean,
nous sommes tous contraints d'une certaine façon. Nous avons tous des limites à notre liberté.
On
pourrait dire que c'est peut-être le symptôme d'une certaine folie, mais Mélodie a décidé de s'affranchir de ses limites, tout en sachant qu'elle a commis des péchés dont on peut peut-être penser qu'ils sont irréparables. Mais elle est à un stade où elle est au-delà de la honte, parce que la honte, c'est évidemment une perception sociale. On décide qui doit avoir honte et qui ne mérite pas la honte. Donc, Mélodie exprime son regret, elle sait qu'elle a commis une grosse erreur, mais elle est passée au-delà du stade de la honte. Néanmoins, elle cherche la rédemption tout au long du récit.
Alors dans justement ce livre-là, comme celui qui vous a rendu célèbre, Le cœur qui tourne, on retrouve cette idée d'une sorte de cœur accusateur, c'est-à-dire que il y a des voix comme ça populaires qui s'érigent contre celle qui faute, contre celle qui vient justement troubler l'ordre moral du village, et en même temps il y a la faute plus ou moins grave. Par exemple, les fautes des hommes sont pas jugées tout à fait pareil.
Sure. And you know, the thing with a village is this is very clearly a village.
Le contexte du village rural en Irlande, ou le petit bourg en Irlande, c'est intéressant. Parce que en ville, on peut vivre dans un quartier ou dans une rue, alors que dans un village, on vit dans un village. Et il y a cette présence, cette omniprésence de la perception des autres. Lorsqu'une erreur est commise, on a vite fait de montrer du doigt le responsable. Et ça génère de la colère, de la honte, et ainsi de suite. Et ça va très très vite. C'est en fait un passe-temps pour les villageois de montrer du doigt les gens qui ont commis des erreurs. Et bien souvent, il y a bien des erreurs. C'est un instinct humain, je crois, qui fait que les gens agissent de la sorte. Mais ça peut être en fait une soupape aussi. Peut-être que c'est nécessaire pour nous d'accuser les autres, de trouver la faute chez l'autre. Mais ce qui m'a fasciné chez Mélodie, c'est le fait qu'elle ne s'intéresse pas à ça. Elle est passée au-delà. Mais en même temps, chez Mélodie, sa folie extériorisée ou perçue par l'extérieur permet d'articuler les complexités de son fort intérieur. Tout au long du récit, elle ressent une terrible culpabilité. Mais pas la culpabilité, la honte qu'inflige la société.
Donald Ryan, il y a une dimension extrêmement féministe, presque militante dans votre livre, parce que non seulement vous décidez d'être un écrivain qui se met à la place d'une femme, mais aussi vous décidez de parler de la grossesse, qui est un moment particulier de contrôle social. Il y a le contrôle sur la paternité, il y a le contrôle aussi sur le développement, le déroulement de la grossesse, dans le mariage, hors mariage. Il y a finalement celui qui va s'occuper ou ceux qui vont s'occuper de l'enfant. C'est un domaine de contrôle particulièrement violent sur les femmes. Et là, vous faites une comparaison entre les gens du voyage et cet autre personnage qui est celui de Mary et le personnage de votre héroïne, Mélodie. Toutes deux sont confrontées à cette violence, soit de la stérilité, soit de la procréation.
Yeah, that's so true. As our mutual friend Joseph O'Connor once said,
oui, feminism. Il y a une dimension culturelle. En réalité, le féminisme, c'est le bon sens, c'est tout. Mais tout ce que vous dites est juste. La grossesse, est abordé de différentes façons. Ça peut faire l'objet d'une transaction, d'une monétisation, même parfois. Et en effet, ça fait l'objet d'un contrôle, comme vous le dites. Et pour des milliards de gens, en effet, c'est une expérience qui n'est pas anodine. Parce que on dicte aux femmes ce qu'il faut faire. Pendant leur grossesse, parce que c'est la grossesse qui les définit d'une quelque sorte à l'aune de normes sociales. Et la grossesse elle-même constitue une partie fort importante de mon livre, je crois, avec tout ce qui en résulte. Et il me semble lié à l'idée que se fait Mélodie de sa propre rédemption. Mais bon, je ne vais pas tout divulguer, mais quoi qu'il en soit, j'ai fait de mon mieux pour me souvenir l'expérience qu'a eu ma femme de sa grossesse. Mais mes souvenirs, je m'en suis aperçu, étaient assez vagues en réalité.
Alors pour ne pas trop justement spoiler, il y a cette idée à la fois de la grossesse telle qu'elle se passe pour ce personnage, il y a la question de la stérilité dans la communauté des gens du voyage, mais il y a aussi cette histoire de l'Irlande qui ressurgit, Donald Ryan, et le sort qui était réservé aux femmes dont vous parlez dans ce livre. Il y a une quarantaine d'années, les femmes qui avaient des enfants en dehors du mariage, qui se retrouvaient à laver le linge dans des sortes d'établissements tenus par des religieuses, à laver le linge, à être des sortes d'esclaves modernes, et à qui on arrachait leur enfant pour l'envoyer dans des familles, soit à l'étranger, soit ailleurs.
Eh bien, comme ailleurs, il y avait donc des normes, des critères, un certain nombre de règles, et la liberté pouvait être atteinte après 800 ans de lutte. Et notre liberté, nous, Irlandais, nous l'avons immédiatement cédée à l'Église, qui n'est pas dénuée de règles. On nous dit il faut être hétérosexuel, il faut procréer. Et il faut prier. Voilà. Les grandes règles de l'Église imposées à l'Irlande. Et donc, la société était stratifiée, très peu de mobilité, on restait dans une classe sociale et on n'en bougeait pas. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on arrive à s'affranchir de toutes ces règles que je viens de décrire. Et les règles sont menacées, voire en voie de disparition. Mais ça bridait, voire ça empêchait la liberté, le bonheur de s'exprimer. Donc les règles étaient immuables, inscrites dans le marbre. Et les sanctions, les punitions, c'était immédiatement et évidemment la damnation. Il y a beaucoup de femmes qui étaient détenues, le mot n'est pas trop fort, et faisaient l'objet d'un esclavage, donc elles travaillaient comme esclaves.
Donald Ryan, de même que vous avez décrit les conséquences tragiques de la crise économique dans Le cœur qui tourne, là vous décrivez un sujet très important. Il y a eu le vote cette année de la loi pour l'avortement en Irlande, qui a fait l'objet de débats justement très longs suite à un cas très grave il y a 2 ans qui avait traumatisé toute l'Irlande, cette femme qui est morte justement devant les médecins. Il y a eu ce débat aussi autour du mariage pour les personnes de même sexe. Vous êtes, depuis votre échelle d'écrivain, observateur, l'échelle toujours du village près de Limerick, vous avez quand même ce rapport-là à l'ère du temps irlandais.
Oui, je crois que ça fait partie des obligations de l'artiste, de l'écrivain que je suis, mais il ne faut pas pour autant être polémique. Il ne faut pas manœuvrer le lecteur en inscrivant ses propres pensées dans le texte. Nous, en tant qu'artistes, à mon avis, il faut que l'on révèle un certain nombre de choses sur la réalité du système, sur ce qu'est le système. Et moi, en tant qu'écrivain, je me préoccupe toujours de m'approcher le plus possible de la vérité des autres. Mon boulot, ce n'est pas d'exprimer une opinion politique. Je ne veux pas que les gens croient ce que je crois. Ce n'est pas du tout ça mon objectif. En fait, je suis constamment à la recherche de la vérité. Et bon, la vérité, c'est tellement nébuleux qu'on se demande si on peut la toucher du doigt. En effet, l'œuvre artistique parfaite, c'est celle qui explique parfaitement la réalité. Mais cette œuvre-là n'a pas encore été créée, par conséquent, l'art a de beaux jours devant lui.
Alors, l'œuvre d'art, elle vient aussi créer des images. Je vous propose d'écouter John McGahern justement parler de ces images créées dans l'écriture.
The type of fiction writer that I am is that the image is central.
Pour l'écrivain que je suis, c'est l'image qui est essentielle, qui est la grammaire du travail. Très simplement, ça veut dire qu'à partir des sentiments, des pensées, des émotions, j'essaie de faire sortir une image lumineuse, une image qui nous émeut. Ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'une alliance qui ne cesse de tomber du doigt et qu'il faut chercher. Et cette recherche se fait en réalité dans les détritus de nos vies. Une image claire, ça donne du sens à tout ça. Et je pense que cette image est ce qui vient en premier. Et elle tient grâce à la musique et au rythme de la prose. La forme, c'est la dernière chose, la partie la plus consciente. Pour trouver cette image, on doit réfléchir, s'imprégner, travailler à l'instinct. Et tout cela prend vie grâce au rythme qui relie les images. Et c'est seulement quand ce travail est achevé qu'on lui donne une forme littéraire. Mais ça n'a pas de sens de donner une forme à une prose morte. Ce serait comme envoyer un mort à son mariage.
Donald Ryan, qu'est-ce que vous pensez justement de ce qu'il vient de dire John McGahern, ce mélange entre l'image formée par l'œuvre d'art, par l'écriture, et puis de l'autre côté, cet instinct qui va donner du sens, qui va créer une sorte de vérité.
Well, just on creating an image, John McGahern once described a hedgerow.
Une fois, il a décrit une haie et la lumière dans cette haie. Un paragraphe de prose d'une perfection formidable. Donc la prose est quasiment parfaite. Donc pourquoi essayer de faire mieux? C'est tellement cristallin, tellement juste, tellement vrai tout cela. Si l'on utilise la prose comme matériau pour faire de l'art, le rythme, la musique de la langue constitue les premiers éléments sur lesquels il faut se pencher et la forme vient après. Il faut essayer de créer une sorte d'expérience humaine avec des mots. Et ça, ça semble un petit peu présomptueux en réalité. À mon sens, nous ne faisons pas suffisamment attention à la langue. On utilise la langue pour faire de l'art, donc dans l'écriture, c'est un petit peu presque un blasphème, ça ne peut pas marcher. Et la langue, évidemment, fait évidemment l'objet d'assauts multiples. Aujourd'hui, elle est agressée. Et moi, je veux protéger la langue. Et parce que le pouvoir, le potentiel de la langue est quasiment infini. Moi, en tant qu'artiste, je n'ai qu'un outil, c'est la langue.
Alors la langue, le rythme de la langue, la musique de la langue, nous dit John McGahern. On a l'impression qu'il parle de poésie alors qu'il parle de prose, mais finalement, c'est un peu la même chose. Il y a une référence très forte dans votre livre, c'est une référence à cette nature, à ce milieu rural, aux animaux, aux êtres vivants, aux fleurs, et on pense tout de suite à la poésie de Yeats, on pense à cette poésie irlandaise qui a marqué justement le XXe siècle. Donald Ryan, il y a la nature, la poésie, et il y a finalement la magie, hein, parce que la communauté des gens du voyage, ça va vous permettre d'évoquer cette magie et cette nature qui était si chère à Yeats, qui lui-même a écrit grâce à sa connexion avec un milieu occulte, surnaturel, grâce à ces esprits qui existent aussi dans la culture mythologique celtique. Est-ce que vous aviez ce désir de vous reconnecter à ces racines-là?
Sure. These are the things.
Bien sûr, parce que moi j'ai baigné là-dedans quand j'étais enfant.
I was completely swaddled in love with the child. But also, I came from a small village, from a rural background. My parents
beaucoup
both
aimé
from farming families.
Quand j'étais enfant.
And so I was surrounded by nature.
J'étais, je vivais dans la nature. Je vivais dans un milieu rural, et donc la nature faisait partie de notre vie. Évidemment, nous étions catholiques, donc l'Évangile jouait un rôle important, et la magie de la religion religion était acceptée comme étant quelque chose qui faisait partie de la raison. Mais en même temps, il y a une magie plus païenne. On peut lire une vérité dans le temps qu'il fait, dans le comportement des animaux. Tout cela, c'est parfaitement accepté, au même titre que la religion.
Est-ce que finalement ce monde sacré qui se trouve aux interstices de l'écriture inspirée et de l'écriture pratique, matérielle, ancrée justement dans la terre, est-ce que c'est justement sur cette frontière-là que vous écrivez, Donald Ryan ?
Not really. I'm not sure. I mean, nature is
La nature, c'est l'infinité. Quand on s'intéresse à la nature, on s'intéresse à l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Si je pense trop de temps à me demander de quoi est fait un proton, pourquoi à l'intérieur de l'électron il n'y a pas de commutateur? Pourquoi il agit avec d'autres électrons? Est-ce que je vais aller loin? Je ne sais pas. Mais moi, comme je vous le disais, j'ai vécu dans un milieu rural. Mes parents étaient des gens qui avaient beaucoup lu. Il y avait beaucoup de livres chez moi. Mais et c'est toute cette complexité avec laquelle j'ai dû jongler enfant. Et donc, il y a la réalité telle qu'on peut la voir, telle qu'on peut la toucher du doigt, mais il y a des choses au-delà de ça. Alors, évidemment, c'est le matériau que façonne et l'écrivain, ce avec quoi il travaille. Pour certains écrivains, il y a des penchants plus pour la magie. Sinon, on peut s'interroger, poser des questions existentielles. On s'y prend comme on peut, comme écrivain.
Merci Donald Ryan d'avoir été avec nous aujourd'hui et à Xavier Combes de vous avoir traduit. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Tout ce que nous allons savoir, Tout ce que nous allons savoir, et il est publié aux éditions Albin Michel. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était préparée par Julien Rosa, Chouchane Djergaillon, Lou Lejoli, Alexandra Brouillet, à la réalisation Marie Placé, à la technique Valentin Bobinet. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.